Alors d'abord, en introduction, donc, se dire qu'est-ce que c'est que l'espérance finalement? Qu'est-ce que c'est que l'espérance théologale? Alors, une vertu théologale, ça signifie que cette vertu, elle a Dieu pour source. Donc, Dieu nous en fait don. Vous avez reçu les trois vertus théologales au baptême comme un cadeau précieux, comme une petite graine. Ça veut dire que c'est un cadeau qu'il va falloir développer. De ce point de vue-là, le Seigneur agit, vous voyez, il y a lui qui agit, mais il y a nous qui agissons. Il y a cette réciprocité dans la liberté. Donc Dieu nous fait un don, il nous a donné au baptême la foi, l'espérance, la charité, et nous avons la liberté de grandir plus ou moins dans ces vertus. Mais une vertu théologale, c'est d'abord un don de Dieu. Voilà, Dieu est la source de l'espérance théologale. Et la vertu théologale, elle a aussi Dieu pour objet. C'est-à-dire que tout ce qui fait, tout ce qu'est l'espérance, finalement, se rapporte à Dieu. Alors là, on comprend déjà que l'espérance théologale, c'est pas les petites espérances, voyez, c'est pas l'espoir. C'est pas seulement espérer que demain, telle ou telle chose, ça ira mieux. Même si ça fait aussi partie de la vie. Mais l'espérance théologale, c'est plus profond que cela. J'allais dire, c'est plus divin que cela. Mais c'est aussi humain. Donc, j'ai reçu la foi, j'ai reçu l'espérance et la charité au baptême comme des dons de Dieu. Et toute ma vie, je vais pouvoir grandir dans la foi, dans l'espérance et dans la charité. La Sainte Vierge, elle est comme nous, de ce point de vue-là. Elle a vécu la foi, l'espérance et la charité. Donc, ça, c'est un peu l'arrière-fond, parce que Marie, notre mère, est évidemment celle qui va nous aider le mieux à grandir dans les vertus théologales. Et donc, aujourd'hui, on parle de l'espérance. L'espérance est donc la vertu théologale par laquelle nous attendons de Dieu lui-même, avec une ferme confiance, la vie éternelle et son aide pour y parvenir. Ça, c'est un peu une des définitions. Voyez. L'espérance théologale, c'est la vertu par laquelle j'attends de Dieu. Voyez, j'attends de Dieu, c'est Dieu qui va me le donner, avec confiance. Qu'est-ce que Dieu veut nous donner? On va creuser un peu. La vie éternelle. Et sur cette terre, il va nous donner aussi son aide, sa grâce pour y parvenir. En fait, Dieu nous donne tout. Il nous donne le but et sur terre, il va nous donner toute grâce pour faire le chemin vers le but. Donc, on voit bien que vertu théologale, vous voyez, Dieu est à la source, Dieu est au but et Dieu est avec nous sur le chemin pour nous donner tout ce dont nous avons besoin, jour après jour, pour progresser vers ce but. Voilà. Alors, rien que ça, ça devrait, si vous voulez, nous mettre dans l'action de grâce, dans la reconnaissance. Dieu veut tout nous donner. Et si vous vous rappelez rapidement l'épisode de la Genèse avec le péché originel, c'est quoi le péché originel? C'est Adam et Ève qui ont cru au mensonge du serpent, qui leur a dit, en gros, Dieu veut pas tout vous donner. Vous allez devoir prendre par vous-même. Voilà. Et ça, c'est le grand mensonge, comme si Dieu ne nous aimait pas, comme si Dieu voulait garder pour lui. Alors que non, Dieu veut tout nous donner. Il nous donne tout. Il nous donne tout à la source et il nous donne tout jusqu'au but. Et le but, c'est la vie éternelle. Ça veut dire il n'y a pas de fin. Voilà. Donc ça devrait déjà nous mettre dans une grande reconnaissance, vous voyez. Voilà, donc ça c'était un petit rappel introductif. Je voulais vous donner une définition rapide de ce qu'on appelle la vertu théologale et l'espérance théologale. Donc l'espérance théologale, c'est le fait d'attendre de Dieu lui-même ce que Dieu veut me donner, la vie éternelle, et de croire qu'il va aussi me donner tout ce qu'il faut pour arriver au but. Alors, on parlait tout à l'heure rapidement de l'espoir. La différence avec l'espoir ou ce qu'on appelle les petites espérances, voyez, humaines. La grande différence, c'est que L'espérance théologale va donner à votre vie et à tout ce que vous vivez une perspective d'éternité. Ça, c'est le propre d'ailleurs de toutes les vertus théologales. Tout d'un coup, notre vie, elle change de dimension. Si je prends un exemple très connu, qui est plus lié à la vertu de charité, mais enfin, elle est associée à la foi et à l'espérance, elles se tiennent, hein, les trois, vous voyez, c'est pas facile de les dissocier. Lorsque Thérèse de l'Enfant Jésus, la petite Thérèse, elle donne cet exemple que ramasser une épingle, petite épingle par terre, par amour, peut sauver une âme. Vous voyez la disproportion en soi entre le fait de ramasser une épingle, mais c'est le par amour qui compte. Par amour, c'est la charité théologale, peut sauver une âme. Vous voyez, ce que Thérèse l'a dit, qui implique la charité, mais aussi la foi, et un peu l'espérance finalement, c'est la dimension théologale de l'acte qui fait que cet acte insignifiant, qui ne sert à rien en soi, si on a ramassé une épingle, c'est bien, mais voyez, en soi, cet acte insignifiant prend une dimension de salut, d'éternité, pour une âme. Alors, c'est ce que font toutes les vertus théologales, et c'est ce que va faire l'espérance, voyez, nos désirs, nos petits désirs. Quand je dis ça, c'est pas petit au sens mesquin, mais même nos désirs humains, etc., avec l'espérance théologale, ils prennent une perspective d'éternité. Voyez, ça prend une autre dimension. C'est pour ça que notre vie, votre vie, avec la foi, l'espérance, la charité, elle n'est jamais petite. Votre vie est grande. Voyez, Dieu fait quelque chose de grand de nos petites vies. Enfin, voilà, je ne sais pas quoi vous dire, moi. Voyez, Dieu ne regarde pas comme nous regardons. Voilà, et les vertus théologales vont nous aider à voir notre vie, à voir le réel, avec une dimension d'éternité. Alors, je vous donne encore une petite définition par rapport à l'espérance comme vertu théologale. Elle est dans le catéchisme de l'Église catholique, c'est le numéro 1817. Je cite le catéchisme, « L'espérance est la vertu théologale par laquelle nous désirons comme notre bonheur le royaume des cieux et la vie éternelle. L'espérance est la vertu théologale par laquelle nous désirons comme notre bonheur le royaume des cieux et la vie éternelle. En mettant notre confiance dans les promesses du Christ et en prenant appui non sur nos forces, mais sur le secours de la grâce du Saint-Esprit. » Vous voyez, là, vous avez une autre définition, mais qui se rejoint de l'espérance. L'espérance théologale, c'est la vertu par laquelle je désire, j'attends, j'aspire, comme à mon bonheur, à mon plus grand bonheur, voyez, au bien suprême, j'aspire au royaume des cieux et à la vie éternelle. Voilà. Et vous voyez que cette espérance n'est pas fondée sur nous-mêmes. Elle est fondée sur les promesses du Christ, sur les promesses de Dieu, sur sa parole. Elle n'est pas fondée sur nos propres forces, hein. Et même la manière dont je vais espérer, c'est pas avec mes forces, c'est avec le secours de la grâce du Saint-Esprit. Alors, après ces éléments un petit peu généraux de définition, je voudrais approfondir donc l'objet de l'espérance. En gros, c'est quoi? Ce que nous espérons. Qu'est-ce que c'est? En quoi nous espérons? C'est ça l'objet de l'espérance. Alors on l'a déjà un peu entendu, hein, le royaume de Dieu, la vie éternelle. On va développer un peu. Et pour cela, je voudrais vous lire la prière du jubilé, donc la prière qui était dans la bulle d'indiction du pape François pour ce jubilé 2025. Père céleste, en ton Fils Jésus-Christ, notre frère, tu nous as donné la foi et tu as répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint la flamme de la charité. Que la foi et la charité qu'elle réveille en nous la bienheureuse espérance de l'avènement de ton royaume. Que ta grâce nous transforme pour que nous puissions faire fructifier les semences de l'Évangile qui feront grandir l'humanité et la création tout entière dans l'attente confiante des cieux nouveaux et de la terre nouvelle. J'ai voulu lire cette prière parce qu'il y a voilà beaucoup d'éléments qui nous disent l'objet de l'espérance. L'avènement de ton royaume, les cieux nouveaux et la terre nouvelle, la victoire sur les puissances du mal, la manifestation pour toujours, toujours, de la gloire de Dieu. Et la prière se termine ainsi, que la grâce du jubilé qui fait de nous des pèlerins d'espérance ravive en nous l'aspiration au bien céleste et répande sur le monde entier la joie et la paix de notre Rédempteur. À toi, Dieu béni dans l'éternité, la louange et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donc on a cette dernière idée, hein. L'espérance, elle est liée donc au désir, à l'aspiration vers les biens célestes, hein, qui sont à venir. Alors du coup, je voudrais maintenant finalement reprendre ces quelques idées qu'on a déjà entendues. C'est quoi cette histoire de royaume des cieux, de cieux nouveaux, de terre nouvelle, la manifestation de la gloire, la victoire, est-ce que vraiment Dieu est tout puissant du mal? Voyez, parce que c'est ça que nous espérons. Voyez, donc c'est ça qu'il faut creuser, parce que notre foi et notre espérance s'appuient là-dessus. Alors toutes ces idées, elles se fondent quand même sur une idée de base que j'ai un peu évoquée tout à l'heure avec le péché originel. C'est le fait que Dieu nous aime. C'est le fait que Dieu veut tout nous donner. Donc, il veut aussi nous donner le royaume, la vie éternelle, la gloire, sa gloire, tout son amour. Voilà, Dieu, le bonheur, la vie éternelle. Tout ça, Dieu veut nous le donner. Donc, ça, c'est plutôt l'objet de la foi. Ne pas douter que Dieu est bon, que Dieu nous aime, que Dieu aime l'humanité qu'il a créée, que Dieu veut tout nous donner. Alors, je voudrais vous parler rapidement, parce que c'est une bonne illustration, notamment pour la victoire sur le mal. C'est un grand mystère pour nous de tenir en même temps que Dieu est tout puissant, et en même temps qu'apparemment, il n'est pas si puissant que ça. Voyez ? Ça, c'est un scandale pour nos intelligences, c'est un scandale existentiel aussi. Alors, comment, en croyant, on peut résoudre ça? Là, je touche à une grande question. Je ne vais pas faire tout un enseignement sur le scandale du mal, la question, c'est des questions à la fois philosophiques, théologiques. Mais quand même, je voudrais en parler en se mettant à l'école des saints. Parce que les saints, ils sont comme nous, ils ont été comme nous. Et ils ont fait ce même chemin, vous voyez, exactement le même. Donc c'est plus facile, je pense, d'écouter les saints plutôt que de commencer à faire des grandes réflexions philosophiques. Et alors, je voudrais vous parler de Sainte Julienne de Norwich. C'est une mystique anglaise du 14e, 15e siècle. Voilà, je ne sais pas si certains ont déjà entendu parler de Sainte Julienne de Norwich. Bon, elle n'est pas très connue, en tout cas en France. Donc, c'était une mystique, une femme qui a consacré sa vie à Dieu, un peu une recluse, et elle a eu des révélations de Jésus. Et donc, dans ces révélations, ça touche justement à l'espérance, parce que ça touche justement à Seigneur, mais finalement, comment c'est possible, quoi, que tout ce que tu nous promets, quand on voit autant de mal, autant de souffrance, autant de... Voilà. Et Jésus n'a pas donné la réponse à Sainte Julienne. Jésus n'a pas dit, je vais t'expliquer comment je vais m'y prendre pour, à la fin, que tout se passe bien, et aussi pour avoir la victoire. Non, il lui a pas expliqué. Ça, c'est très important. Généralement, Dieu, je l'ai déjà dit l'année dernière, mais à nos pourquoi, il ne répond pas. Il peut, je vous dis pas qu'il le fera jamais, mais l'expérience spirituelle montre que Dieu ne répond pas généralement à « Mais pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi il m'arrive ceci? Pourquoi ce mal? Pourquoi cette maladie ?» Ouais. C'est pas impossible, mais souvent, justement, pour faire grandir notre foi et notre espérance, Dieu ne répond pas spontanément à la question « Pourquoi ?» Pour quelle cause, hein? En revanche, Dieu, si vous lui posez la question, dans cette situation, dans cette, souvent c'est des situations d'épreuve, de souffrance, etc. Dans cette situation, comment? Pas pourquoi, mais voyez, comment? Comment je peux grandir dans cette situation? Dans la foi, dans l'amour, dans l'espérance, là vous aurez toujours la réponse. Et là, plus rien n'est perdu dans nos vies. Et une autre question à laquelle Dieu répondra certainement, ou en tout cas vous pourrez, comme la Sainte Vierge, méditer dans votre cœur, c'est pourquoi, mais pas le même pourquoi, pas la cause, la finalité. Dans quel but tu permets cela ? Seigneur, dans quel but tu permets cela dans ma vie ? Voyez ? Et vous n'aurez peut-être pas la réponse tout de suite, mais le « dans quel but », c'est un peu comme le « comment », ça va vous mobiliser dans la foi et l'espérance théologale. Et la Vierge Marie a vécu, vous voyez, ces questions. Je vous rappelle simplement l'épisode du recouvrement de Jésus au Temple. Qu'est-ce que dit Marie à Jésus ? Pourquoi nous as-tu fait cela ? Alors, est-ce que c'était un pourquoi, pour quelle raison? Ou est-ce que c'était pourquoi, dans quel but tu nous as fait ça? Ah, je vous laisse méditer sur la question, mais je pense que la question pour la finalité est beaucoup plus intéressante. Dans quel but? Et Jésus leur donne une réponse. Il leur dit pas pourquoi, il leur donne un but. Et je dois être dans la maison de mon Père. C'est ça le but de ma vie, c'est ça ma mission. Et on voit bien, Marie et Joseph ne comprirent pas. En tout cas, pas tout de suite, ce que Jésus leur disait. C'est une bonne école, une bonne leçon pour nous. Donc, Marie ne comprend pas tout de suite, ne comprend pas toujours la profondeur de ce que Jésus lui fait vivre, même de douloureux dans ce cas. Voyez, et je pense que ce « pourquoi nous as-tu fait cela ? Pourquoi pendant 3 jours on t'a cherché ?» Elle comprendra peut-être quelques dizaines, enfin 20 ans après, hein. Lorsqu'elle va attendre pendant, enfin voilà, le 3e jour, la résurrection. Je ferme la parenthèse, mais ça c'est important. Je ne sais plus pourquoi je disais ça. Ah oui, le scandale du mal, etc., qui nous atteint. Comment Dieu va s'y prendre, voyez. Alors, je reviens à Sainte Julienne de Norwich, à qui Jésus, dans les révélations qu'il lui a fait, ne dit pas comment il va s'y prendre, etc., mais il lui donne le but. Il lui donne il lui montre en quoi elle doit espérer, croire et espérer. Je vous cite Benoît XVI, donc notre pape Benoît XVI, qui a fait une catéchèse en 2010 sur Sainte Julienne. Donc, c'est juste pour donner plus de poids à ces fameuses révélations, sinon vous allez vous dire, oh là là. Alors c'est Benoît XVI qui a parlé de Sainte Julienne en 2010, 1er décembre 2010, et je vais vous lire vraiment ce qu'il a dit parce que c'est très beau. Je voudrais souligner un autre point, c'est toute une catéchèse, donc je vous donne juste une petite partie. Donc, le catéchisme de l'Église catholique rapporte les paroles de Julienne de Norwich. Donc ça, vous irez voir le numéro 303-314, je vais vous trouver exactement le numéro dans lequel Sainte Julienne est citée, c'est le 313. Catéchisme de l'Église catholique 313, Sainte Julienne de Norwich est citée. Donc Benoît XVI parle de ça. Je voudrais souligner un autre point. Le catéchisme de l'Église catholique rapporte les paroles de Julienne de Norwich quand il expose le point de vue de la foi sur un thème qui ne cesse de constituer une provocation pour tous les croyants. Donc c'est ce fameux point de pourquoi le mal, quoi, ce scandale. Si Dieu est suprêmement bon et sage, pourquoi le mal et la souffrance des innocents existent-ils? Même les saints, précisément les saints, se sont posés cette question. Illuminés par la foi, ils nous donnent une réponse qui ouvre notre cœur à la confiance et à l'espérance. Donc les saints se sont posés cette question et illuminés par la foi, il nous donne une réponse qui ouvre notre cœur à nous, qui sommes en chemin, à la confiance et à l'espérance. La réponse, c'est dans les mystérieux desseins de la Providence, Dieu sait également tirer du mal un bien plus grand. Dans les mystérieux desseins de la Providence, mystérieux, voyez, c'est au sens que c'est trop grand pour nous. Sur cette terre, on ne pourra pas comprendre comment Dieu, il arrive à tirer un bien du mal. Sachant que le mal reste toujours un mal dans cette histoire. Mais Dieu peut en tirer un bien. Je vais vous donner un exemple. Mais vous en avez déjà dans votre tête, je pense. Donc, dans les mystérieux desseins de la Providence, Dieu sait également tirer du mal un bien plus grand. Comme l'écrivit Julienne de Norwich, citation de Julienne, « J'appris de la grâce de Dieu que je devais rester fermement dans la foi et que je devais donc solidement et parfaitement croire que tout aurait bien fini. » Sainte Julienne est connue pour cette phrase un peu plus courte que Jésus lui dit « Tu verras toi-même que tout sera bien. » À la fin, tu verras que tout sera bien. Et je continue avec Benoît XVI. Oui, chers frères et sœurs, les promesses de Dieu sont toujours plus grandes que nos attentes. C'est ça l'espérance chrétienne. Dieu non seulement ne nous décevra pas, mais il fera plus grand encore que ce que nous pouvons désirer et que ce que nous pouvons imaginer. Oui, chers frères et sœurs, les promesses de Dieu sont toujours plus grandes que nos attentes. Si nous remettons à Dieu, à son immense amour, les désirs les plus purs et les plus profonds de notre cœur, nous ne serons jamais déçus. Et tout sera bien, citation, et tout sera bien. Encore une autre citation de Sainte Julienne, chaque chose sera pour le bien. Tel est le message final que Julienne de Norwich nous transmet et que moi aussi je vous propose aujourd'hui. Fin de citation de Benoît XVI. Voilà. Donc, le pape Benoît XVI, s'appuyant sur Sainte Julienne, nous transmet lui aussi cet acte d'espérance en Dieu. Tout sera bien. Chaque chose sera pour le bien. Ça reprend tout simplement une parole qui est dans l'Écriture sainte, parmi d'autres. Romains 8, 28. Donc ça, il faut le connaître par cœur. Romains 8, 28. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bon, vous la connaissez, cette phrase, mais il faut bien l'avoir dans son cœur, surtout pour les moments difficiles. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout. Même le mal. Tout, même le péché. Donc, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Évidemment, le bien, évidemment, tout ce qui est beau aussi, mais tout. Hein, même le mal, même le péché. Dieu ne se laisse jamais vaincre par le mal. La meilleure preuve, c'est le mystère de la rédemption. Le mystère de la rédemption. C'est comment le plus grand mal, la mise à mort du Fils de Dieu, a concouru au plus grand bien, le salut de tous. Vous voyez, donc, c'est un mystère, c'est-à-dire ça nous dépasse pourquoi, quelque part, Dieu a permis le mal, pourquoi Dieu permet le mal. Ça, je vous donne pas de réponse, je ne l'ai pas. Vous voyez? Mais nous avons la réponse sur la croix, dans la résurrection, et dans l'expérience des saints, et dans notre foi, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, que tout sera bien, que ceux qui mettent en Dieu leur espérance ne seront pas déçus. Je vous cite encore le catéchisme, et on est dans l'espérance, avec le numéro 314, qui conclut un peu cette thématique, hein, de la puissance de Dieu sur le mal. Nous croyons fermement que Dieu est le maître du monde et de l'histoire. Mais les chemins de sa providence nous sont souvent inconnus. Ce n'est qu'au terme que les voies nous seront pleinement connues. les voies, les chemins, par lesquels, même à travers les drames du mal et du péché, Dieu aura conduit sa création jusqu'au repos de ce Shabbat définitif en vue duquel il a créé le ciel et la terre. Donc là, le mot important, vous voyez, c'est « ce n'est qu'au terme ». Voilà. Sur cette terre, comment Dieu va s'y prendre, comment Dieu s'y prend dans ma vie personnelle, évidemment dans la vie de l'humanité, ça nous dépasse. On ne sait pas. Mais on sait qu'on ne sait pas, mais on sait que Dieu va le faire. C'est ça la foi et l'espérance. Hein? Et au terme, hein, nous verrons, nous connaîtrons, comme dit Jésus à Julienne de Norwich, tu verras toi-même que tout sera bien. Au terme, nous comprendrons comment mystérieusement Dieu s'y est pris pour que tout ce qui nous arrive, tout ce qui arrive dans ce monde d'une certaine manière, que Dieu au minimum permet, même quand parce qu'il ne veut pas le mal, Dieu, je suis pas en train de vous dire que Dieu veut le mal, mais ce que Dieu laisse faire, ce que Dieu permet, il a la puissance de le tourner en bien. Donc voilà pour finalement quelque chose assez général finalement sur l'espérance, mais qui est quand même très important. Alors, si on affine un petit peu, donc là, je pense que vous avez compris, hein. Forcément, on doit avoir le ciel, la vie éternelle. Sinon, en fait, on parle pas de l'espérance théologale, sinon. Alors, cette espérance théologale, c'est ce vers quoi nous allons. Thérèse de l'Enfant Jésus, elle dit, par exemple, dans une de ses poésies très connues, Vivre d'amour, elle dit, Dieu sera ma grande récompense. C'est génial, ça. Voilà. Dites-vous ça. Dieu sera ma grande récompense. Dieu sera votre grande récompense. Lui, il n'oublie rien. Il y a un texte dans le livre des Proverbes, je crois, mais je ne me rappelle plus la référence, mais qui dit quelque chose de magnifique. Dieu tient compte de tout acte de charité. On revient à l'histoire de l'épingle ramassée avec amour. Mais ça, c'est très important. Hein. Je reviens à quelque chose que j'ai dit tout à l'heure. Nos vies ne sont pas insignifiantes pour Dieu. Et ce qui va donner finalement un sens fort à votre vie, justement, c'est la foi, l'espérance et la charité. Donc, Dieu sera votre grande récompense. Ça, c'est vraiment notre espérance. Dieu se donnera lui-même à nous. Dieu nous donnera tout. Il nous donnera son amour, il nous donnera sa gloire. Tout cela s'est décliné dans la parole de Dieu. Si on revient à la Sainte Vierge et qu'on regarde Marie Immaculée Conception. Bon, en quoi ça nous regarde ? Ben, Marie Immaculée Conception, c'est Dieu nous a justifiés en son Fils. Il a justifié Marie. Il nous a justifiés. Saint Paul nous dit, Dieu nous a justifiés dans son Fils. Il nous a rendus justes. Il nous a rendus justes à ses yeux. Saints, immaculés. Sans tâche, beau. Et ce que Marie a vécu par anticipation, pour elle-même, en vue de sa mission, nous le vivons déjà maintenant et en espérance. Donc, ça, c'est pour vous dire l'objet de l'espérance. Tranquille, tout l'héritage, vous êtes des fils et des filles de Dieu. Vous y êtes pour rien. C'est Dieu qui le veut et qui le fait et qui le fera. Et au ciel, vous aurez tout l'héritage. Ça devrait nous réjouir. Bon, après, sur terre, on avance dans l'espérance avec ce que ça signifie. Mais voyez, vous êtes fils dans le Fils. Fils et fille bien-aimés, c'est donné par Dieu. Vous avez rien à faire pour ça, seulement de dire oui. D'accord, je suis d'accord. Et au ciel, on aura tout l'héritage. Et on l'a déjà sur cette terre, jour après jour, par la grâce. Et au ciel, on aura tout. Alors, si on regarde Marie, on regarde aussi le bout de sa vie, c'est l'Assomption. L'Assomption de Marie, c'est la glorification parfaite d'une créature humaine. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a dit oui. Elle a dit oui à Dieu. Elle lui a dit, voici ta servante. Si vous voulez, Marie en soi, Elle est petite, elle est faible, elle est fragile, c'est une créature humaine. Elle dit oui au début, elle dit oui chaque jour, et elle dit oui à la fin. Enfin, c'est ça la vie de Marie. Et ça, de ce point de vue-là, ben, on peut tout à fait faire comme elle. On a le péché qui nous entrave, mais voilà, avec la grâce de Dieu, avec la Sainte Vierge, jour après jour, on avance. Alors Marie, dans l'Assomption, le mystère du 15 août, Marie qui monte au ciel avec son corps et son âme, hein, qui est déjà dans la gloire de Dieu pleinement avec son corps et son âme. Ça, c'est la promesse qui nous est faite à nous. Voilà. J'espère quoi? J'espère une existence immortelle. Alors, on passe par la mort, Marie aussi d'ailleurs, mais existence éternelle, immortelle, vous ne mourrez plus jamais. Alors, la Sainte Vierge, voilà, elle est déjà dans la gloire de Dieu. Et tout à l'heure, on l'a entendu dans la prière du Jubilé. Hein, Dieu qui... notre espérance, elle est l'attente des cieux nouveaux, de la terre nouvelle, la victoire sur le mal et la gloire que Dieu va manifester pour toujours. Voilà. Saint Paul nous le dit à multiples reprises. Vous pourrez lire le chapitre 5 de l'Épître aux Romains, hein, qui est magnifique sur l'espérance. Et Saint Paul dit, nous mettons notre fierté dans l'espérance. Quelle espérance? D'avoir part à la gloire de Dieu. C'est autant de manières de dire la même chose. Vous êtes héritier de Dieu, vous avez part à la gloire de Dieu. Vous aurez part à la gloire de Dieu. Et pas seulement votre âme, aussi votre corps. Nous espérons la vie éternelle et la vie éternelle pour nos corps. Nous espérons la résurrection de la chair. Ces petites choses comme ça, on n'y pense pas toujours. Dieu nous le promet, Marie le vit déjà, et donc c'est comme une preuve que c'est pour nous. C'est pas seulement pour Jésus qui lui était Dieu, hein, c'est aussi pour nous. Un autre point sur lequel je voulais évoquer, parce que on en a peut-être pas suffisamment conscience, l'espérance, l'objet de l'espérance, c'est pas seulement la vie éternelle, la résurrection de la chair, la gloire de Dieu, l'héritage, de tout ce que Dieu veut nous donner. C'est tout ça. Tout ça, c'est un peu, finalement, on sait même pas comment dire ce que ça, vous voyez, c'est l'amour de Dieu et ça se décline de différentes manières. Mais il y a autre chose que nous espérons. C'est la venue glorieuse de Jésus. Qui mettra d'ailleurs un point final au mal. À notre vie, si on est encore là lorsqu'il reviendra. Voilà, la victoire pleine de Jésus dans sa venue glorieuse. Et là, je voudrais juste vous faire remarquer, vous l'avez certainement remarqué, bien sûr, comme moi, dans la nouvelle traduction du missel francophone, on a remis quelque chose qui était bien sûr dans le missel en latin. C'est la petite prière que le prêtre dit entre le Notre Père et... lorsque l'on dit la doxologie, car c'est à toi qu'appartiennent. Entre les deux, le prêtre dit une prière, on appelle ça l'embolisme. Et dans cette prière, on entend « Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps, soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons, nous qui espérons, c'est la même chose, nous qui attendons, que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. » Voilà. Avant, on avait la même chose, mais on n'avait pas la bienheureuse espérance. On avait simplement, enfin, nous attendons que se réalise l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Mais voyez, c'est très important qu'on ait rajouté la bienheureuse espérance, parce que justement, c'est ça, notre espérance. L'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, sa venue dans la gloire. Sa victoire pleinement manifestée. On attend ça. L'espérance des cieux nouveaux et de la terre nouvelle, si vous voulez approfondir, vous pourrez lire le catéchisme, les numéros 1042 à 1050. Ça nous explique ce que l'Église croit lorsqu'elle dit que nous espérons les cieux nouveaux et la terre nouvelle. Les cieux nouveaux et la terre nouvelle, la manifestation de la victoire de Jésus, la glorification, la résurrection de la chair, tout cela, ce sont autant de dons de Dieu qui font partie de ce qu'on appelle la fin des temps, avec la bienheureuse espérance de la venue de Jésus. Hein, et ça se déploiera dans différentes choses, voilà, qu'on évoque avec ces différents aspects. Et donc on peut creuser, voilà, mais c'est pas l'objet tout de suite. Alors peut-être je vous parle quand même un peu plus de la Sainte Vierge. Donc grandir dans l'espérance théologale avec Marie, comme Marie. Donc Marie, c'est la mère de l'espérance, on l'a entendu. C'est pas seulement un titre, parce que elle l'a vécu, l'espérance. Elle l'a vécu dans la nuit, elle l'a vécu dans l'épreuve. Il y a une parole du livre de Judith dans l'Ancien Testament que l'on peut attribuer à Marie comme une prophétie. Judith, chapitre 13, verset 19, qui est vraiment très belle. « Jamais l'espérance dont tu as fait preuve ne s'éloignera du cœur des hommes, mais ils se rappelleront éternellement la puissance de Dieu. Jamais l'espérance dont tu as fait preuve ne s'éloignera du cœur des hommes, mais ils se rappelleront éternellement la puissance de Dieu. » Donc cette parole qui est dite à Judith, mais qui finalement qui est attribuée à la Sainte Vierge par la liturgie, c'est ce que nous vivons. Hein. Marie, elle a fait preuve d'une telle foi, d'une telle espérance, d'une telle confiance dans les promesses de Dieu, qu'on en parle. Enfin. On ne cesse, jour après jour, de génération en génération, de louer Marie pour sa foi, pour son espérance. Et en même temps, vous voyez, on ne loue pas seulement Marie. On loue l'espérance de Marie, et il nous est dit, les hommes se rappelleront éternellement la puissance de Dieu. Vous voyez, quand, en regardant Marie dans sa foi, dans son espérance, ça nous tourne vers Dieu. C'est Dieu qui, en Marie, avec Marie, a mis en œuvre sa puissance. Et donc, ce que Dieu a fait avec Marie, il le fait avec nous. Je voudrais simplement vous réévoquer la Vierge du Samedi Saint, Marie le Samedi Saint. Donc, Jésus est mort, Jésus a été déposé dans ses bras, Jésus a été mis dans un tombeau et on a roulé la pierre. Hein ? C'est fini. Il n'y a plus d'espérance. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, dit le dicton populaire. Bon, quand il n'y a plus de vie, voilà. Donc, le sort du Vendredi Saint, c'est fini. Hein ? Il y en a une seule qui va croire et espérer contre toute espérance humaine, c'est Marie. Hein ? L'espérance, dit le pape François à propos de Marie, et c'est aussi pour nous, c'est pour ça que je vous le lis, l'espérance est cette capacité de croire au-delà des raisonnements humains, de la sagesse et de la prudence du monde. L'espérance est cette capacité de croire en l'impossible. Vous connaissez certainement cette parole du livre de Job qui charmait le cœur de la petite Thérèse parce qu'elle y voyait justement la confiance maximale. Job qui dit, c'est une des traductions, « Combien même Dieu me tuerait, j'espérerai encore en lui. » Quand nous, quand on écrit, enfin, je sais pas, mais « Combien Dieu me tuerait, j'espérerai encore en lui. Bon, » quand on est mort, je sais pas si on espère encore, mais voyez la force de cette parole. Hein, elle est extrême. Et c'est pour ça qu'elle charmait la petite Thérèse qui voulait avoir une confiance au-delà de tout, espérer contre toute espérance. Hein, cette parole que l'on connaît, hein, qui est dans l'épître aux Hébreux, qui nous parle de Abraham. Il a espéré contre toute espérance. Et Marie, encore plus qu'Abraham, elle a espéré contre toute espérance. Elle a cru en l'impossible. Voilà. Donc l'espérance, c'est cette foi que Dieu va maintenir ses promesses, que Dieu est fidèle à ses promesses, quand tout prouve le contraire. Là, c'est l'espérance poussée au maximum, évidemment. Et donc, dans notre vie, à nous, comme chrétiens, qui avançons jour après jour vers le ciel. C'est important de s'armer pour espérer. Alors je vais redire des choses à partir de la vie de la Sainte Vierge. Armer pour espérer, prendre les armes, les bonnes armes. La première, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la grâce, c'est le Saint-Esprit. Par nous-mêmes, par nos forces, tout ce que je viens de dire, surtout quand c'est très 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 dur, c'est pas possible. Donc Marie, elle était pleine du Saint-Esprit, remplie de l'Esprit-Saint, remplie de grâce, remplie de voilà de cette action puissante de l'amour de Dieu en elle. Elle était pleine parce qu'elle était pleinement ouverte. Il y avait pas de fermeture. Il y avait rien qui disait non en elle. Donc en nous, c'est un peu plus compliqué. On peut ouvrir, on peut fermer les portes. Mais voilà, le tout c'est de toujours ouvrir, hein, et de toujours réouvrir. Faut pas avoir peur du péché et de tout ça, hein. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça va? Donc vous dites pas ouais, mais pour Marie c'est facile. Non, c'est pas plus facile, hein. Donc soutenu par la grâce de Dieu, soutenu par le Saint-Esprit. C'est la première arme, c'est de croire. En fait, c'est de se dire, oui, je sais que je ne suis pas capable, tout seul. Hein? Mais Dieu me donne sa grâce. Ça, vous pouvez en être sûr. Donc, on revient à l'introduction. L'espérance comme vertu théologale, c'est un don de Dieu. Hein? Et donc, je vais vivre soutenu par la grâce de Dieu. Le bon Dieu, il n'a pas donné son don et il est parti. Hein, c'est tous les jours qu'il nous donne sa grâce. Bien sûr, on peut aussi la demander, la mendier. Mais encore une fois, celui qui veut pour vous, celui qui veut pour toi le bonheur, la vie éternelle, la gloire, c'est Dieu. Vous comprenez ça? Il veut nous le donner. Donc, il va pas nous dire « je veux te donner ça, puis maintenant je te laisse là, tout seul, débrouille-toi ». Non. Donc, Dieu veut nous donner, hein, et il va nous donner sur le chemin, parce que pour le coup, on est en chemin. Donc, c'est tous les jours un petit peu. On n'a pas tout d'un coup. Hein, on a ce qu'il nous faut pour avancer jour après jour. Comme Marie, elle n'a pas tout compris, elle n'avait pas tout à la fois. Elle a avancé jour après jour. Alors, donc ça, c'est la première chose. La première arme, c'est se dire que je vais recevoir la grâce. La deuxième chose, c'est la parole de Dieu. Marie, elle a vécu de foi et d'espérance soutenue par la parole de Dieu, par les promesses de Dieu. Et on connaît tous, bien sûr, cette attitude du cœur de Marie. Marie retenait toutes ces choses, tous ces événements, toutes ces paroles, événements dans son cœur. Cette parole, elle est dite deux fois dans l'évangile de Luc. Après l'épisode des bergers à la crèche, là, je me trompe pas, c'est ça? D'un coup, j'ai peur de me tromper. Mais enfin, peu importe. C'est toujours quand elle ne comprend pas. Vous croyez qu'elle a compris, Marie, tout ce qui se passait là? Et la deuxième fois, c'est après le recouvrement de Jésus au temple. Elle n'a pas compris, et on nous dit, Marie retenait tous ces événements dans son cœur, toutes ces paroles. Et donc ce que Jésus lui a dit, elle va peut-être le comprendre le samedi saint. Pourquoi m'avez-vous cherché? Ne savez-vous pas que je devais être aux affaires de mon père? Oui, là je fais ma mission. Vous voyez, donc elle va garder ça. Ça c'est intéressant de se dire que la parole de Dieu va habiter le cœur de Marie, pas d'abord quand c'est facile. Mais surtout quand c'est difficile, quand c'est éprouvant, quand c'est dur, quand elle ne comprend pas, quand c'est obscur. Mais vraiment, vous voyez, la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est vraiment une arme très forte dans notre vie de foi. Vous pourrez peut-être regarder dans la Bible chaque fois qu'il y a le mot espérance. Par exemple, prenez les psaumes. Les psaumes, c'est des prières admirables de louanges. De louanges, nous dit-on, alors qu'en fait, regardez les psaumes, ça crie dans tous les coins, ça dit à Dieu, où est-ce que tu es, qu'est-ce que tu fais, regarde mes ennemis, voilà. Mais de fait, c'est des louanges. Oui, c'est des louanges parce que c'est des prières de croyants qui disent à Dieu, voilà ce que je vis, c'est la galère, où tu es, qu'est-ce que tu fais, viens à mon secours, libère-moi de mes ennemis, etc. je suis dans l'angoisse, je suis au fond du gouffre, enfin, voilà. Et en même temps, ce sont des louanges parce que celui qui dit ça le dit comme un croyant qui espère que Dieu va pas le laisser au fond de son trou, au fond de son gouffre, livré à ses ennemis, etc. Donc dans les psaumes, vous avez plein de paroles d'espérance. J'espère le Seigneur, j'espère en sa parole. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Il y en a je ne sais pas combien. Aujourd'hui avec un ordinateur, c'est facile parce que vous prenez une Bible en ligne, vous tapez espérance, vous allez trouver tout. Sinon vous prenez une concordance, ça existe, c'est un livre en papier. Vous prenez le mot espérer, espérance et voilà. Vous avez toutes les références dans la parole de Dieu. Donc les psaumes, regardez, lisez les psaumes, ça c'est des super prières d'espérance parce que elles sont enracinées sur la terre, mais elles regardent vers le ciel. Elles sont enracinées dans le réel qui est souvent galère, souvent très dur, mais elles sont enracinées dans la foi que Dieu est fidèle à ses promesses. Alors, un autre livre plein d'espérance, c'est le livre des Maccabées. Le premier et surtout le deuxième, vous savez, c'est ce livre des martyrs d'Israël. Les martyrs, c'est le summum de l'espérance, évidemment. Quand vous êtes à la porte de la mort, alors là, soit on espère, soit on n'espère pas. Pourquoi les martyrs ont pu donner leur sang? Parce qu'ils espéraient. Sinon, c'est de la folie. Vous voyez? Et donc, dans le livre des Maccabées, vous avez de magnifiques paroles sur l'espérance. Par exemple, c'est dans l'histoire de la mère avec ses 7 fils, vous savez, qui vont mourir en une seule journée, là. Mais qui nous dit, ah non, ça c'est l'histoire pas de la mère, c'est l'histoire du vieillard juste, hein, qui refuse de faire semblant de manger du porc, etc. Et il est dit de lui, s'il n'avait pas espéré que ceux qui avaient succombé ressusciteraient, la prière pour les morts était superflue et absurde. S'il n'avait pas espéré, ils espéraient en la résurrection. C'est pour ça qu'ils se sont laissés tuer. C'est pour ça qu'ils ont préféré rester juste devant Dieu. Il y a aussi une phrase magnifique dans le premier livre des Maccabées, chapitre 2, verset 61. Retenez donc bien ceci de génération en génération. Tous ceux qui gardent l'espérance auront la force de résister. Ça, c'est pour nous aujourd'hui. Retenez bien ceci de génération en génération. Tous ceux qui gardent l'espérance auront la force de résister. C'est aussi pour nous, ça. Parfois, on se dit, oh, est-ce que j'aurai le courage de témoigner de Jésus jusqu'au bout? On n'en sait rien. Présentement, on n'en sait rien, là. Mais là, vous avez une parole de Dieu qui vous dit, tous ceux qui gardent l'espérance auront la force de résister. Pas en eux-mêmes, mais la force du Saint-Esprit, la force de la grâce de Dieu. Alors, la fameuse citation avec la maman admirable qui voit mourir ses 7 fils dans la journée, 2 Maccabées 7:20, c'est un sacré témoignage. Leurs mères furent particulièrement admirables et dignes d'une illustre mémoire. Voyant mourir ses 7 fils en l'espace d'un seul jour, elle le supporta vaillamment. Vous savez pourquoi? Qu'est-ce qu'elle dit la parole? Elle le supporta vaillamment parce qu'elle avait mis son espérance dans le Seigneur. Et la sagesse nous dit au chapitre 3, verset 4, livre de la sagesse, « Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment, mais l'espérance de l'immortalité les comblait. » Voilà. Bon, et je vous donne quelques citations, il y en a plein comme ça. Donc, je vous parle de ça parce que la parole de Dieu est une arme dans la foi et dans l'espérance. Une arme solide. C'est important de connaître des versets par cœur pour les avoir, je dirais, dans sa main, dans son cœur, comme une arme quand on en a besoin. Ah, il y en a une qui est extraordinaire dans les psaumes, psaume 118, verset 81. 118, verset 81. Celle-là, elle est pour nous, peut-être pour l'un parmi vous plus que pour d'autres, mais usé par l'attente du salut, j'espère encore ta parole. Elle est forte, cette parole, usé par l'attente du salut, voyez, j'espère encore ta parole. Seigneur, je suis usée là. C'est dur, ça met du temps à venir. Qu'est-ce que tu fais? Voyez, je suis fatiguée. J'espère encore ta parole. Il y a des paroles de Dieu qui commencent par je sais. Et je sais, c'est comme des affirmations de la foi, de l'espérance que nous avons en Dieu. Par exemple, alors celle-là, c'est pareil, elle est forte. Hein. Psaume 118, verset 75. Seigneur, je le sais, tes décisions sont justes. Tu es fidèle quand tu m'éprouves. C'est fort, mais c'est exactement, vous voyez, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je le sais, je le crois, tes décisions sont justes. Ça ne veut pas dire je les comprends, mais elles sont justes. Tu es fidèle, tu es encore fidèle. Tu prends soin de moi quelque part, vous voyez, Dieu cherche votre vrai bien lorsqu'il vous éprouve. Je tremble en vous disant ça, je sais que c'est pas rien de traverser l'épreuve, quelle qu'elle soit. Mais quel est le bien que Dieu va tirer de l'épreuve? Ah, il y a cette phrase admirable de Job, parce que alors Job, vous connaissez le livre de Job, hein, voilà, c'est un grand spécialiste en matière d'épreuve et d'espérance. Job 19, chapitre 19, verset 25. Je sais, vous voyez, c'est encore un je sais. Je sais, moi, que mon Rédempteur est vivant, que le dernier, il se lèvera sur la poussière. Donc là, vous avez Job dans la tombe, quoi, en gros. Et il est encore capable de dire, je sais que mon Rédempteur est vivant et que le dernier, il se lèvera sur la poussière. Et donc cette affirmation, finalement, la puissance de Dieu même sur la mort. Hein? Job, chapitre 42, verset 2. Il faut remplir votre petite besace de toutes ces paroles, vous voyez, parce qu'on en a besoin régulièrement. Job 42, verset 2. « Je sais que tu peux tout et que nul projet n'est pour toi impossible. Je sais que tu peux tout, Seigneur. » Comment tu t'y prends? Quand est-ce que tu le fais? Ça, c'est encore une autre question, mais je sais que tu peux tout et que nul projet n'est pour toi impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Et je vais terminer avec les béatitudes. Parce que les béatitudes, c'est finalement un peu le sommet de la prédication de Jésus en matière d'espérance. L'espérance chrétienne, dit le catéchisme au numéro 1820, l'espérance chrétienne se déploie dès le début de la prédication de Jésus dans l'annonce des béatitudes. Les béatitudes élèvent notre espérance vers le ciel comme vers la nouvelle terre promise. Elles en tracent le chemin à travers les épreuves qui attendent les disciples de Jésus. Jésus ne nous a pas promis que ce serait facile, mais nous pouvons être sûrs qu'il sera notre grande récompense. Et donc les béatitudes, vous pourrez les méditer, c'est un chemin d'espérance parce que ce sont des promesses qui sont pas encore réalisées, ou pas complètement. La réalisation de chaque béatitude, sauf la première et la neuvième, sont au futur. Donc, c'est une promesse. Hein. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux les doux, ils recevront la terre en héritage, la terre promise, le ciel. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Et on a deux béatitudes au présent, la première et la dernière. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Voilà. Que le Seigneur nous donne dans notre acte de foi et d'espérance de la joie, du bonheur. Une part de ce bonheur qu'il nous promet et que nous attendons, que nous espérons, le bonheur du ciel, hein, que nous goûtons déjà sur la terre, pèlerin d'espérance, voyez, un pèlerinage, on part d'un point et on va vers un but. Donc que le Seigneur vraiment fasse de nous des pèlerins d'espérance qui traversent cette vie, qui est parfois une vallée de larmes, souvent même, avec dans le cœur cette confiance inébranlable que Dieu ne nous décevra pas. À la fin, tout sera bien, tout. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, tout. Et que vous avez du prix aux yeux de Dieu, que nous avons du prix aux yeux de Dieu, que Dieu nous aime et veut tout nous donner et se donner lui-même à nous. Dieu sera, et déjà sur cette terre, notre grande récompense. Voilà, que la Sainte Vierge, qui est la mère de l'espérance, qui a espéré avec nous, avant nous, pour nous. On n'espère pas que pour soi-même. Hein. Comme chrétien, on espère pour tous. Voyez, unie à Marie, Marie n'a pas espéré pour elle-même. Elle a espéré pour nous. Donc, vos actes de foi et d'espérance, ils ont une portée plus grande que votre propre vie. Hein, comme cette histoire de la petite épingle de Thérèse. Donc, oubliez pas ça non plus, vos vies, elles peuvent prendre une dimension d'éternité grâce à la foi et à l'espérance théologale, à la charité théologale, aux vertus théologales vécues. Votre vie est bien plus grande que votre vie. Et ça, vous ne le verrez qu'au ciel. Mais alors, au ciel, ça va être un festival, quoi. Ça va être un feu d'artifice, mais on n'imagine pas. Parce que tout cela, ça va nous être révélé. Tout ce poids tout ce que nos vies ont porté. Et tout ce que nous devons aussi les uns les autres. Donc, chrétiens, on a l'espérance, on l'a aussi pour ceux qui ne l'ont pas. Donc, le Seigneur compte sur nous, c'est aussi une responsabilité. Et la Sainte Vierge, elle compte sur nous, elle a besoin de nous. On n'a pas besoin d'être fortiche, voyez. Le peuple des béatitudes, c'est un peuple petit et humble, mais qui met sa foi, son espérance dans le Seigneur, qui s'appuie sur le Seigneur.